France Inter.
Quand les dieux rôdaient sur la terre, il y a très longtemps en Grèce, ce n'était pas simple à l'époque de raconter une histoire. Si un poète comme Homère s'attaquait à la légende d'Ulysse ou d'Achille, il rencontrait beaucoup de difficultés. Il fallait d'abord qu'il obtienne l'accord des dieux pour se lancer dans de telles histoires. Tout seul, il n'y arriverait pas. Il fallait qu'il négocie avec les muses, ces filles de Zeus et de la déesse Mémoire. Elles savent tout. Elles ont enregistré tous les événements qui ont eu lieu sur terre, sous terre et au ciel. Sans les muses, le poète n'aurait pas accès à ce qu'ont vécu, à ce qu'ont pensé les héros des époques lointaines, morts depuis longtemps comme Ulysse, Télémaque, Pénélope. Et surtout, les muses devaient être d'accord pour que le poète, un simple humain, ait accès à ce que les dieux et les déesses pensaient, projetaient, combinaient pour aider ou embêter ces héros.
Quand les dieux rôdaient sur la terre. Pierre Judet de Lacombe sur France Inter.
C'est l'homme aux mille tours, muse, qu'il faut me dire. Celui qui tant erra, quand de Troade il eut pillé la ville sainte. Celui qui visita les cités de tant d'hommes et connut leur esprit. Celui qui sur les mers passa par tant d'angoisses en luttant pour survivre et ramener ses gens.
Mais même avec toutes ces aides, avec toutes ces informations données par les muses, le poète n'était pas encore tiré d'affaire. C'était compliqué, chanter en public une histoire comme celle d'Ulysse, de son retour chez lui et de l'impitoyable et sanglante vengeance qu'il finira par infliger aux jeunes gens qui occupent sa maison et dévorent ses richesses. Non seulement il fallait être sûr de ce qu'on allait dire, mais il fallait plaire au public qui était exigeant. Les histoires qu'on racontait avaient déjà été racontées mille fois par d'autres poètes. Le public les connaissait bien. Il fallait tout faire pour être nouveau et intéressant, disruptif, comme on dit maintenant, sans ignorer ce qu'avaient chanté les autres. On devait montrer qu'on était au courant, qu'on connaissait toutes ces versions différentes mises sur le marché par des collègues. Mais il fallait montrer aussi qu'on était capable de faire mieux, autrement, sans décevoir. On ne pouvait pas dire n'importe quoi. Il y avait des scènes clés, des moments capitaux et attendus qu'il ne fallait pas louper. On savait que Pénélope et Ulysse, qui ne se sont pas vus pendant 20 ans, devaient à un moment ou l'autre se reconnaître et s'embrasser. Oui, mais quand? Après combien de temps? Avec quel signe de reconnaissance? Dans quel état d'esprit? Ulysse, on le savait, est toujours vainqueur. Il devait donc arriver à supprimer la masse des méchants prétendants qui depuis plusieurs années vivaient en parasites dans son palais et voulaient tous épouser sa femme. Mais comment a-t-il fait? Avec quelle ruse? Et étaient-ils tous méchants, ces prétendants? Il y avait plusieurs scénarios possibles pour répondre à ces questions. Nous n'en avons gardé qu'un seul, le récit que nous donne Homère dans son Odyssée. Mais il en existait beaucoup d'autres. Et Homère, qui les connaissait, s'amuse à dire qu'il aurait pu faire comme ci, puis comme ça, mais qu'il a finalement choisi cette solution-là. Il nous balade. Ça le fait rire. Une autre difficulté pour les poètes était qu'eux-mêmes ne savaient pas toujours ce qu'il fallait penser de l'histoire qu'ils racontent. Ce n'est pas eux qui avaient décidé qu'Ulysse massacrerait tous les prétendants avec cruauté. C'était comme ça, parce que c'est ce qu'on a toujours raconté sur lui. Les poètes n'étaient pas obligés de trouver cela bien. Ils pouvaient s'interroger et laisser la question ouverte. Les poètes pouvaient eux-mêmes être surpris, choqués par les faits et gestes de leurs personnages et surtout par les interventions des divinités qui décidaient de l'action.
Zeus, mon divin époux, as-tu fait exprès d'ordonner la profanation de mon temple en Thessalie?
Bon, ce fut entièrement la faute de Pélias. Non content de s'emparer du trône de Thessalie, ce que je voulais, il a cherché à éviter de le perdre, ce que je souhaitais. Je sais qu'on t'a gravement insulté, ma chère. Mais rassure-toi, le beau petit Jason est sauvé. Il va te venger.
Comment?
Comment ne sais-tu pas encore que je n'ai jamais été ni exact ni précis dans les
et
détails?
Et sous prétexte que tu n'es ni exact ni précis, une jeune fille fut tuée et mon temple fut profané. C'est bien, j'aiderai Jason.
Non. Tu peux aider cet enfant, Philomène, si tu le veux. C'est une fille. Le reste est affaire d'homme.
Non. Je veux aider Jason.
Dans le monde légendaire que chantaient les poètes, les dieux et les déesses décidaient de tout, ou presque. Les humains devaient s'adapter. S'ils étaient intelligents, comme Ulysse, et aussi au plus haut point, comme Pénélope, les humains devaient essayer de comprendre ce que les dieux leur accordaient comme marge de manœuvre. Sinon, ils étaient perdus, éliminés. Mais savoir pourquoi les dieux ont pris telle ou telle décision, pourquoi ils ont obligé les hommes et les femmes à accomplir telle ou telle action, ça, non seulement les héros humains comme Ulysse et Pénélope ne le savaient pas, mais les poètes eux-mêmes pouvaient être bien embêtés, perplexes ou même critiques. Les poètes étaient mis devant le fait accompli. Ils pouvaient innover, broder à l'infini sur les circonstances de l'action, sur le timing, sur les épisodes. Et le résultat final, à savoir les retrouvailles d'Ulysse et de Pénélope et la fin sanglante des prétendants, devait rester le même. Il fallait y arriver, quoi qu'on en pense. Homère va nous entraîner dans un suspense très élaboré. On sait vers quoi on va. Le triomphe d'Ulysse, la réunion des époux. Mais nous allons, comme ces personnages, passer par des états, par des attentes très variées, par d'énormes surprises. On ne saura pas bien ce qu'il faut en penser. Homère ne tranche pas. Il nous laisse nous faire notre opinion. Homère est facétieux. Il aime bien nous emmener là où on ne pensait pas aller, pour raconter cette histoire qui est pleine de colère, pleine de violence, puisqu'il s'agit de se débarrasser de toute une génération de jeunes blancs-becs, les prétendants. Pleine de tristesse aussi. Pénélope se lamente depuis si longtemps sur l'absence d'Ulysse. Elle a versé tant de larmes. Homère va utiliser une arme totalement inattendue et très efficace, le rire. On est en plein drame, mais ça va rigoler, à Ithac. Homère, qui aime bien les surprises, qui aime bien l'humour, va faire jouer à ses deux grands héros, Ulysse et Pénélope, des scènes de comédie, où le rire sera décisif, triomphant. Ils le feront séparément, parallèlement, et prépareront ainsi le dénouement final de toute l'histoire. Le rire met tout le corps en joie, parce qu'on est confronté soudainement à de l'inattendu, à de la surprise bienvenue. Il introduit une rupture dans la suite des jours. On se libère au moins pour un moment, tout paraît possible. Le rire, c'est une distance par rapport à ce qui a lieu, à ce qui paraissait nécessaire. Il ouvre le monde, il permet de le voir autrement, il prend à contre-pied. Grâce à lui, on est libre d'imaginer. Homère joue de cette rupture qu'est le rire pour mettre en place son intrigue et pour mettre en valeur ces deux personnages essentiels, Ulysse et Pénélope, qui ne se sont pas encore rencontrés. Ça commence par un grand rire de Pénélope. Elle ignore qu'Ulysse est rentré à Ithac. Elle ignore qu'il est là, tout près, dans son palais, sous la forme d'un loqueteux, d'un vieux mendiant misérable qui vient quémander de la nourriture. Elle a seulement appris que ce mendiant a été maltraité par les jeunes prétentieux que sont les prétendants. Il a même été frappé par l'un d'eux. C'est inadmissible. Un mendiant est une personne sacrée. On lui doit le respect. Pénélope se met en colère contre les prétendants et dit souhaiter ardemment que la mâle mort les emporte. C'est à ce moment qu'un éclat de rire va changer le cours de l'histoire. Alors que Pénélope exprime sa colère contre les prétendants qui n'ont pas respecté les règles élémentaires concernant les mendiants et qu'elle dit souhaiter leur disparition, son fils Télémaque est secoué par un gigantesque éternuement qui ébranle toute la maison. Les mots qu'Homère emploie pour évoquer le bruit que fait Télémaque sont exactement ceux qu'il utilise dans l'Iliade pour dire le fracas que produit le choc de deux armées se jetant l'une contre l'autre. Surprise par l'éternuement de son fils, Pénélope éclate de rire. Elle n'a pas dû rire depuis des années. Mais elle sait, comme tout le monde, qu'un éternuement est un signe divin. Elle comprend que les dieux lui indiquent qu'il y a un rapport entre la venue de ce mendiant inconnu et le malheur qu'elle souhaite pour les prétendants. Elle n'a aucune idée du moment, du comment, de l'identité de ce mendiant. mais elle sait que quelque chose de nouveau se prépare. Elle se tient prête. Elle demande à voir immédiatement le mendiant. Elle devra attendre. Ulysse lui fait savoir qu'il préfère ne pas venir tout de suite. « Les prétendants lui font peur, dit-il. Ils sont méchants. Il ne veut pas traverser la grande salle où ils font les arrogants. Il ne rencontrera Pénélope que le soir venu, quand il n'y aura plus personne. » L'action est lancée par l'éternuement de Télémaque et le rire de Pénélope. La machination contre les prétendants se met en place. Les époux, bientôt, seront face à face. Mais pas tout de suite. Il faut attendre le soir. Avant qu'Ulysse et Pénélope ne se retrouvent, il y a quelques heures à passer, un temps de suspens. Homère va meubler ce temps de manière très inattendue. Il invente des scènes comiques où le rire aura toute sa place.
Pierre Dac et Francis Blanche, auteurs de la moderne Iliade, affrontent le grand Homère.
Je veux que vous me rendiez Ulysse pour commencer, parce que vous êtes des plagiaires, des faussaires. Faire ça à un aveugle, hein? Mais vous n'avez pas honte?
Mais tu m'as révélé que tu simulais la cécité.
Peu importe, l'humanité entière me croit aveugle, c'est le principal. Bon, revenons à Ulysse.
Bon, mais qu'est-ce que tu lui veux à Ulysse? Nous avons besoin de lui.
Non. L'avait envoyé à Paris voir danser le French Cancan, ça n'était pas dans l'Iliade. Et puis, il me faut absolument Ulysse, n'est-ce pas, pour un projet, un grand projet que j'ai là, dans ma grosse tête. Un truc époustouflant, là.
Ah ouais, je vois l'Odyssée.
Comment vous n'allez pas me fauger encore cette histoire-là, non?
Non, mais enfin, on ne sait jamais, n'est-ce pas? On pourrait avoir envie d'en faire une adaptation.
Mais je vous l'interdis, vous m'entendez? D'ailleurs, elle est déposée à la Société des Aèdes. AEDES, Société des auteurs et dramaturges excessivement séculaires.
France Inter. Quand les dieux rôdaient sur la terre. Pierre Judet de Lacombe.
Guarda lì, dai treni in corsa si sbilanciano, in canottiera ti sorridono. Comedy. Comedy, comedy orchestra illusa Napoli, e poi sgridata Minneapoli. Comedy, comedy d'Anjou. La comédie d'Anjou. À Anjou, ta vie. La comédie. Wah 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 wah. Wah 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 wah. 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 Wah 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 wah. Wah wah wah. Ma cos'è? La luce piena di vertigine, sguardo di donna che ti fulmina. Comedy, comedy. Comedy, antica amante vista Napoli, con lontanissimi binocoli. Comedy, comedy d'Anjou. Parlami
dunque il ricordo si semplifica nel suono dolce ed infelice qui. Comedy, 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 comedy orchestra che precipita in un ventilatore al Grand Hotel. Ah, comedy, comedy, comedy. La comédie d'un jour, la comédie de ta vie, la comédie, la comédie, la comédie, la comédie.
Pierre Judé de la Combe raconte un Ulysse bouffon.
L'éclat de rire de Pénélope aura des suites. Il va se répercuter dans tout le palais. Avant de se rencontrer, les deux époux vont chacun de son côté montrer toute leur valeur, faire preuve de leur habileté de manière incongrue et passablement ironique. Ils vont jouer leur rôle, mais de manière caricaturale, avec dérision, l'un et l'autre. Une farce va précéder le drame. Côté Ulysse, ce sera franchement burlesque.
Qu'est-ce que tu viens faire ici? Comment es-tu entré?
Ce n'est pas très difficile, par l'entrée des serviteurs, des cuisines.
Ulysse, transformé physiquement par Athéna, a pris l'apparence d'un gueux, d'un mendiant misérable, avec une besace tenue par une ficelle. Il a bien retrouvé son palais, mais sans se faire reconnaître. Il quémande de la nourriture auprès des prétendants, qui n'arrêtent pas de faire la fête et de s'empiffrer.
Toi, approche.
Ayez pitié, reconnaissez mon infortune. Les mendiants ont toujours été très bien accueillis chez le victorieux Ulysse.
Je devrais te châtier pour ton insolence.
Toi, me châtier, il faudrait que tu sois le maître ici. Nous sommes, vous et moi, les hôtes d'Ulysse.
Va, va-t'en, pourceau de malheur, sors d'ici.
Voilà pour toi, bois au vol. Appelez un serviteur pour qu'il achète d'or.
Je vous remercie. Puissent les dieux un jour s'en souvenir.
Ces jeunes gens vont rire, rire grossièrement au sujet de ce mendiant. Côté Pénélope, ce sera nettement plus élégant, aristocratique, dans une manifestation éblouissante de beauté et de raffinement. Mais ce ne sera pas moins un manipulateur. Homer va mettre Ulysse le mendiant dans une situation incongrue et vraiment comique. Il va devoir affronter physiquement un adversaire qu'il n'avait pas prévu. On va retrouver l'Ulysse héroïque, le guerrier qui sait se battre, le vainqueur. Mais il ne sera vainqueur que d'un mendiant balourd, facile à mettre par terre. Une masse physique malhabile et peu dangereuse. Dans la ville, il y avait un mendiant attitré. Il avait sa place officielle. Ce mendiant entre dans le palais pour faire son travail habituel de mendiant, une routine.
Le mendiant du pays survint, qui allait, quémandant par la ville d'Ithaque, illustre pour son ventre avide et jamais contenté. Il n'avait pas plus de vigueur que d'énergie, mais sa stature en imposait.
Les gens d'Ithaque appelaient ce mendiant Hyros. C'est un jeu de mots. Cet homme leur servait de messager. Le surnom Hyros rappelle au masculin Iris, la belle déesse, la messagère de Zeus. Iris, au pied de Bourrasque. Cette divinité légère et gracieuse qui vole partout dans le monde pour porter les messages de Zeus. En fait, tout le contraire de cette Hyros. Hyros était un personnage important dans la vie de la cité. Un mendiant avait un statut reconnu. Le poète Hésiode, quasi contemporain de l'Odyssée, le considère avec autant d'intérêt que le paysan, le charpentier ou le poète. Dans son poème sur les règles de la vie économique et sociale, les travaux et les jours, Hésiode rappelle que la mendicité fait vivre selon les mêmes principes économiques que d'autres activités professionnelles. Quand un mendiant quémande de la nourriture, il doit être efficace. Et pour cela, il faut qu'il applique les mêmes règles que les autres travailleurs, qu'il soit charpentier, potier ou poète, s'il veut échapper à la misère. Pour Hésiode, les humains, quelle que soit leur profession, vivent mieux s'ils sont en compétition les uns avec les autres. Pour cela, il faut qu'il y ait d'abord un partage juste, équitable des ressources, puis il faut qu'une bonne rivalité s'instaure entre les travailleurs. si on divise un champ en deux parcelles, les deux paysans propriétaires de ces parcelles produiront beaucoup plus qu'un seul paysan cultivant le tout. L'un voudra faire mieux que l'autre, et à la fin, il y aura plus de blé. C'est la même chose pour les autres métiers. Il faut qu'une vraie rivalité s'installe dans une bonne concurrence, libre et non faussée, comme on dit aujourd'hui. Hésiode résume sa pensée libérale de la compétition par une formule saisissante. Il s'en prend aux abrutis qui veulent tout accaparer, comme les prétendants dévoreurs dans le palais d'Ulysse. Ces crétins n'ont pas compris que le profit que l'on peut tirer du partage des moyens de production est nettement supérieur à celui que l'on tire de la possession du tout. Hésiode est contre les monopoles.
Les idiots, ils ne savent pas à quel point la moitié vaut plus que le tout.
Il existe donc une bonne querelle, une bonne émulation, qui accroît le bien-être de tout le monde. Elle est un immense bien pour les hommes.
Même l'inhabile, cette concurrence l'a éveillé au travail. Car on se sent en manque de travail quand on voit un autre, un riche, qui laboure et plante avec ardeur et gouverne bien sa maison. Alors, le voisin envie le voisin, qui ardemment cherche l'opulence. Pour les hommes, elle est la bonne querelle. Et le potier en veut au potier, et le charpentier au charpentier, et le mendiant jalouse le mendiant, et le poète, le poète.
Et pour que cette doctrine du partage et de la compétition marche et profite à tout le monde, il faut qu'il y ait un accord. Il faut qu'une instance supérieure s'assure que la concurrence n'est pas faussée, qu'elle est acceptée et qu'il n'y a pas d'abus, pas de prédateurs. C'est normalement le rôle de l'autorité politique, le rôle des rois, quand il y en a. À Ithaque, dans l'état de désordre où se trouve cette société, il n'y a plus de roi, plus d'accord, plus d'autorité au-dessus des rivaux. C'est la lutte brutale, une querelle seulement mauvaise. Hyros, le mendiant, n'est visiblement pas pénétré du tout de la justesse de cette pensée économique. Il faut dire à sa décharge qu'il n'a sans doute pas suivi les cours de l'école d'économie de Paris. Il voit qu'un mendiant inconnu, étranger, un intrus, a pris sa place à l'entrée de la salle du palais, sur le seuil de la porte, et il veut tout simplement le chasser. Il n'y a pas de place pour deux. Il veut conserver son monopole. À peine arrivé, Hyros s'en prend à Ulysse et lui demande de dégager.
Il entra. Il voulut chasser Ulysse de chez lui et, l'insultant, lui dit ces paroles ailées.
« Sors d'ici, vieux, ou par les pieds, l'on t'en fera sortir. Ne vois-tu pas que tous me font signe des yeux pour m'engager à te traîner dehors ? Mais j'aurai honte. Allons debout, que nous n'en venions pas aux mains. »
Ulysse, évidemment, ne cède pas. « Hyros et lui, dit-il, ont les mêmes droits. D'où deux solutions. L'une, qui serait le partage de la ressource, il y a de la place pour deux. L'autre, la bagarre. Mais elle risque de faire très mal à Hyros. »
En fronçant les sourcils, l'ingénieux Ulysse dit
« Malheureux, contre toi, je ne fais ni ne dis rien de mal. Je n'empêche aucun d'eux de te donner ce qu'ils voudront. Le seuil est assez large pour nous deux, et tu n'as pas à m'envier les dons d'autrui, puisque tu sembles être aussi mendiant que moi. La prospérité, ce sont les dieux qui l'accordent. Ne me provoque pas au point, ou je m'irriterai, et quoique vieux, te souillerai de sang la bouche et le poitrail. J'aurai ainsi la paix pour longtemps, car je ne crois pas que tu reviennes une seconde fois au palais du fils de Laërte. »
Les prétendants sont trop contents. Une vraie bagarre entre les deux mendiants se profile. C'est trop drôle, on va rire. Ils se mettent en cercle et demandent aux deux misérables de se taper dessus. Le gagnant aura droit à une panse de chèvre farcie de graisse et de sang qui grille sur le feu. Ulysse accepte, car, dit-il, la faim le pousse à un tel combat, bien qu'il soit absurde. Mais il demande que ce soit à la loyale, qu'aucun des prétendants ne vienne aider Hyros. Ils sont d'accord, le combat s'annonce. Se produit alors un événement extraordinaire. Athéna transforme encore une fois le corps d'Ulysse. Il est toujours habillé de loques, mais elle lui fait de gros muscles.
Quant à Ulysse, il troussa ses haillons sur sa virilité, montrant de belles grandes cuisses, et l'on vit ses larges épaules, sa poitrine, ses bras puissants. car Athéna s'était approchée, accroissant la vigueur de ses membres. Pour tous les prétendants, la stupéfaction fut profonde.
On est au-delà de toute cohérence. Comment, avec de tels muscles rendus durs, Ulysse peut-il passer pour un vieux misérable? Il a retrouvé le corps, la force qu'il avait à Troie dans l'Iliade, quand lors d'une compétition sportive entre les chefs grecs, il a participé à une épreuve de lutte contre le grand Ajax. Le combat fut héroïque, douloureux de part et d'autre, équilibré. Là, c'est grotesque. Il ne s'agit que d'assommer un pauvre gueux empoté. Hyros d'abord veut s'enfuir, tant la nouvelle carrure de son adversaire est effrayante. Le prétendant le plus excité, Antinoos, l'oblige à se battre. Ulysse se demande s'il va tuer Hyros d'un bon coup de poing, il le pourrait, ou s'il va se contenter de le coucher mollement sur le sol. Il opte pour la deuxième option. Mais ce qu'il appelle coucher mollement son adversaire peut faire froid dans le dos. C'est extrêmement brutal et sanglant.
Ils se mirent en garde. Hyros le frappa à l'épaule droite. Ulysse frappa à la nuque, sous l'oreille, broyant les os dedans. Le sang rouge aussitôt remplit la bouche. Il s'abattit dans la poussière, geignant, grinça des dents, frappant du pied la terre. Et les superbes prétendants, levant les mains en l'air, mouraient de rire. Ulysse le traîna par un pied hors de l'entrée jusqu'à la cour et aux portes du porche. Contre l'enceinte de la cour, il l'adossa, assis, lui mit son bâton dans la main et lui jeta enfin ces paroles ailées.
« Reste là maintenant pour chasser les chiens et les porcs. Ne joue plus au roi des mendiants ou des hôtes, piteux comme tu l'es, ou tu auras double ration. »
Hyros, expulsé, assis à l'extérieur du palais, n'a même plus le statut de mendiant officiel. Exit Hyros. Ces Grecs ne sont décidément pas détendus. Ulysse a fait avec Hyros ce qu'il voudrait faire avec tous les prétendants. C'est une annonce, elle est grotesque, mais elle vaut comme avertissement. Mais les prétendants se contentent de rigoler. Antinoos, leur chef, se réconcilie avec Ulysse. Il lui donne la panse de chèvre, promise au vainqueur.
Aïe, aïe.
Leur rire est un instant divin qui n'a pas son pareil sur terre, qu'on soit de Gap ou de Provins, que l'on soit né en Angleterre ou à Louvain. Leur rire est un instant divin qui n'a pas son pareil sur terre. Leur rire est un instant divin. Vous en connaissez beaucoup, vous, des gens qui ne rient pas? Il y en a des petits, il y en a des grands, il y en a des gros, comme des tonneaux et puis des maigres. Il y en a des jaunes et puis des blancs, il y en a des rouges. C'est peu fréquent. Il y en a qui sont intelligents, il y en a qui sont fourris d'argent, question de chance. Il y en a qui n'ont pas un rotin, et puis il y a pas mal de crétins. Coïncidence. Eh bien tous ces gens différents, question de race ou bien de rang, ils se ressemblent. Ils se ressemblent tout à coup, quand on faut rire, les secoue, tous bien ensemble. Là, plus de race et plus de rang des créatures, uniquement toutes pareilles. Rien que des humains, avec des yeux, des pieds, des mains, avec des bouches et des oreilles, et puis des cœurs aussi qui battent à l'unisson. Le si bémol d'un rossignol vient contrer le ré d'un pinson, ré mi fa sol, et cela fait une chanson.
Le rire est un instant divin qui n'a pas son pareil sur terre, qu'on soit de Gap ou de Provins, que l'on soit né en Angleterre ou à Louvain. Le rire est un instant divin qui n'a pas son pareil sur terre. Oh, 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 oh. Le rire est un instant divin,
qu'on soit d'ailleurs ou de Pavie, de New York ou de Salamanque, le rire est un instant divin, car il est le seul dans la vie où les humains parlent enfin la même langue.
Le rire est un instant divin, il a pas son pareil super.
Le rire.
instant.
Pierre Judé de la Combe évoque le rire d'une Pénélope séductrice.
Un des prétendants, le plus juste d'entre eux, le seul qui ait droit à l'estime de Pénélope, car il était un homme juste, Amphinoos, celui qui d'habitude calme les ardeurs des autres, qui condamne leur excès, se montre réellement compréhensif et compatissant envers Ulysse. Il se lève, quitte son fauteuil et va personnellement emporter de la nourriture au mendiant et lui propose de partager son vin.
Amphinomos lui offrit deux morceaux du pain de la corbeille et de sa coupe d'or, le saluant, dit ces paroles.
« Salut, père étranger. Puisses-tu connaître bientôt le bonheur. Aujourd'hui, tant de mots t'accablent. »
Ulysse apprécie cette générosité. Il voit en Amphinomos, dont il connaissait bien et appréciait le père, un être juste et raisonnable. Il voudrait le protéger et l'avertir du danger qui l'attend. Il le fait à mots couverts. Amphinomos a souhaité au mendiant de passer de la misère à une condition meilleure. Ulysse lui dit que lui, Amphinomos, pourrait connaître l'évolution inverse et passer du bonheur où il se trouve au malheur. Le moment de la vengeance d'Ulysse est tout proche et Ulysse sait qu'Amphinomos risque bien d'être emporté avec les autres. Il ne le dit pas directement, mais il développe toute une sagesse pour le faire entendre et pour inviter Amphinomos à se séparer des autres prétendants.
On pense qu'on n'aura jamais à subir de malheur dans l'avenir tant que les dieux vous donnent de la valeur et que les genoux ont de l'élan. Mais quand les dieux bienheureux vous rendent la vie lugubre, on ne la supporte que par contrainte, avec un cœur résigné. Car l'esprit des humains qui vivent à la surface de la terre est tel que le jour qu'amène Zeus, le père des hommes et des dieux.
L'esprit humain, selon cette sagesse, n'anticipe pas. Il est totalement dépendant du moment que Zeus impose. Selon que le jour qu'on est en train de vivre est heureux ou lugubre. L'esprit est triste quand le jour à vivre est triste, joyeux quand le jour est joyeux. Esprit se dit en grec « noos » ou selon une autre orthographe « nous ». Le mot, sous la forme « noos », a été utilisé il n'y a pas si longtemps comme nom d'un fournisseur d'accès à Internet. Pour les Grecs, le « noos » ou le « nous » était l'esprit en tant qu'il est dynamique, qu'il se tourne vers les choses, en tant qu'il les perçoit. C'est plus une activité de la conscience, une faculté d'attention qu'un organe. Ulysse avertit Amphinomos. Aujourd'hui, il a l'esprit joyeux, car c'est la fête, et il a montré sa valeur en honorant le mendiant. Demain, ça peut être complètement différent. Surtout si Ulysse revient et fait couler le sang. Amphinomos ne devrait pas se laisser aveugler par le présent immédiat, par le jour qu'il est en train de vivre, et penser à ce qui pourrait arriver le lendemain. Amphinomos, d'une certaine manière, comprend. Il retourne à sa place dans la salle en prenant déjà un air lugubre. Son esprit a pu échapper à l'humeur du moment et a anticipé le lendemain, mais cela ne le pousse pas à réagir. Il reste avec les autres.
Amphinomos retraversa la salle tristement, baissant la tête. Il prévoyait le malheur dans son âme. Il n'évita cependant pas la mort, car Athéna le retint lui aussi sous la lance de Télémaque. Il se rassit dans le fauteuil qu'il venait de quitter.
On peut se demander ce que signifie la justice qu'Ulysse, Télémaque et Athéna vont accomplir en massacrant le jour d'après tous les prétendants. Si celui qui est juste subit le même sort que les injustes, Homère semble bien se poser la question. Homère donne l'impression d'être interloqué. Il semble vouloir dire qu'en fait, la morale, qui juge la valeur des individus, et la politique, qui concerne le pouvoir, ce n'est pas du tout la même chose. Un homme juste est perdu s'il s'associe à un groupe de brigands, à un groupe nuisible qu'une guerre civile va éliminer. Ulysse ne s'intéresse pas à juger les individus. Il veut retrouver son pouvoir et il ne fait pas dans le détail. La lutte pour le pouvoir est nécessairement injuste, violente et binaire, avec des bons et des méchants. Tant pis, c'est bien dommage pour ceux qui ne sont pas méchants. Ulysse a montré ce qu'il sait faire en jouant une scène comique de bagarre entre mendiants. Il a montré sa supériorité de manière très inattendue et paradoxale, en prenant le rôle d'un miséreux, d'un paria, d'un gueux, que l'on moque et qui fait rire. Mais sous ses guenilles risibles, Ulysse a su impressionner et a su faire entrevoir, si on est intelligent comme ce pauvre Amphinomos, l'homme juste, le désastre qui va tomber sur ses adversaires. Ce passage par le rire n'est pas du tout étonnant chez Homère. Ce grand poète épique, ce poète de la gloire d'Achille et d'Ulysse, s'y connaissait en comédie et en rigolade. Lui, le poète souverain, grandiose, le meilleur de tous, il passait pour être le maître de toutes les formes de poésie. Aussi bien de la poésie sérieuse, qui plus tard donnera naissance à la tragédie, que de la burlesque, d'où sera issue la comédie. C'est comme ça qu'on le voyait dans l'Antiquité. Les anciens n'hésitaient pas à lui attribuer des poèmes uniquement faits pour le rire, des poèmes qui pouvaient même être obscènes. Ces poèmes n'étaient pas jugés indignes du grand poète merveilleux. Les Grecs étaient nettement moins coincés que nous. Malheureusement, nous n'avons conservé de cet Homère comique que quelques toutes petites bribes, des citations par des auteurs plus tardifs ou des lambeaux de papyrus. Mais ça vaut la peine, je trouve, d'aller voir et de faire un détour avant de revenir à l'Odyssée. L'Odyssée, après tout, n'est pas toujours sérieuse. À ce moment crucial du retour d'Ulysse, Homère donne une grande place au rire. Le très sérieux philosophe Aristote affirmait avec certitude qu'un poème burlesque très connu et très ancien, plus ou moins contemporain de l'Odyssée, était bien d'Homère. Ce poème s'appelait le Margites, ce qui veut dire « le couillon goulu ». Son héros Margites était un vrai crétin. Le nom Margites vient de l'adjectif margos, qui associe deux notions, celle de voracité, de faim perpétuelle du ventre, comme la gloutonnerie du mendiant Eros, et celle de bêtise, d'une pensée débridée, qui ne connaît aucune limite dans la stupidité. Nous n'avons, je crois, pas d'équivalent en français. Il nous faut deux mots, comme « couillon goulu ». Ce Margites était donc un imbécile. Il n'était bon à rien. Il était né dans une famille très riche et il ne savait rien faire.
Les dieux n'ont fait de lui ni un terrassier, ni un laboureur, ni un habile en quoi que ce soit. Toute technique lui échappait. Il connaissait une foule de travaux, mais les connaissait tous mal.
Il faut dire qu'il ne faisait pas d'efforts.
Ne se donnant aucun mal et n'entendant rien à rien.
Aïe, aïe.
Margites n'était pas très malin. Il ne savait compter que jusqu'à 5, car une main n'a que 5 doigts. Et comme une main lui servait à compter les doigts de l'autre, il n'arrivait pas à 10. Une des ignorances les plus célèbres de Margites était qu'il ne savait pas comment faire des enfants. Il s'était marié, mais il n'osait pas s'approcher de sa femme. Il avait peur qu'elle le dénonce à sa mère. Il ne fréquentait donc pas le bosquet d'Aphrodite, comme dit le poème. Mais cette belle-mère et cette épouse ont trouvé un remède que nous raconte un résumé ancien.
Marié, il ne s'unit pas à sa femme jusqu'à ce que celle-ci, persuadée par sa mère, prétende qu'elle avait été blessée dans les parties basses de son corps et qu'il n'y avait qu'un seul remède, que le sexe mâle vienne s'y adapter. Ainsi, il s'approcha d'elle pour des raisons médicales.
On apprend par un autre témoignage que cette blessure au sexe avait été causée par un scorpion. Margites applique sa médecine. La nuit de noces a donc enfin lieu. Les sons de la harpe accompagnent ce grand exploit que l'on compare à ceux d'Héraclès.
You said don't hide, just walk in a straight line. Don't you apologize when you're right. You said straight spine, take one step at a time. Just keep on breathing and you'll be fine. So I took a breath in and I let myself shout. Felt the air on my skin and let my hair down. I don't really know if I'll come back to this town, but at least I'm here right now. With my heart between your hands in Phoenix, knew that I'd survive 'cause you made me believe it. When I'm under attack and my world feels like it's coming to an end, you say don't break, just bend. You say don't break, so just if you free fall, can't help but hit the wall. yourself shout. Feel the air on your skin and let your hair down. I don't really know if we'll come back to this town, but at least we're here right now. I know. With your heart between your hands in Phoenix, knew that I'd survive cause you made me believe it. When I'm under attack and my world feels like it's coming to an end, you say don't break, just bend. You say don't break, so just if you free fall, can't help but hit the wall. Promise it's not your curtain call. Swear there's so much more, so much that's wonderful, and I'll be by your side through it all. So just take a breath in, you can let yourself shout. Feel the air on your skin and let your hair down. I don't really know if we'll come back to this town, but at least we're here right now. I know. With your heart between my hands in Phoenix, knew that we'd survive cause you made me believe it. When you're under attack and your world feels like it's coming to an end, I'll say don't pray, just with my heart in your hands spilling over and my head resting right on your shoulder. When I'm under attack and my world feels like it's coming to an end, you say don't pray, just
Pierre Judet de la Combe évoque un poème burlesque longtemps attribué à Homère.
Une autre aventure est moins glorieuse. Nous en avons quelques mots sur un papyrus. C'est très fragmentaire, mais on peut reconstituer la séquence. En pleine nuit, Margitès a envie de pisser. Il prend un vase étroit de colle. Avec sa main, il y introduit son membre, mais il se coince. À cause de sa main ? Parce qu'il était en tension ? Ou son état normal suffisait-il à le bloquer ? Les interprètes en discutent encore sérieusement. Voici les bribes de ce poème.
Vessie, et de sa grande main, il mit son sexe dans l'instrument et l'y poussa.
En double peine, il fut coincé.
Tandis que dans le pot de chambre,
impossible d'en sortir.
Et vite, il y pissa.
Mais comment se débarrasser de cette poterie encombrante ? Margitès trouve la solution, casser le vase contre une pierre.
Il imagina un procédé inouï.
Il bondit, quittant sa couche chaude, ouvrit les portes et courut dehors.
Dans la nuit noire.
Sa main.
Dans la nuit noire.
Il n'avait pas de torche.
De sa main libre, dans l'obscurité, il sent une pierre et fracasse contre elle le vase bien rempli. Mais cette pierre était en fait la tête bien dure du voisin qui s'était endormi.
Tête infortunée.
Qui ressemblait à une pierre.
De sa main trapue, il y fit des petits bouts de poterie.
Fin de l'histoire. Ce genre de poésie était considéré comme digne d'Homère, grand poète. Il passait pour l'inventeur de toutes les poésies possibles. Il y avait une chose quand même, que ce Margitès savait faire, une seule, et elle est très utile. Homère, ou l'auteur de ce poème, quel qu'il soit, le compare à un hérisson.
Le renard connaît beaucoup de choses. Le hérisson, une seule, elle est grande.
Le renard est rusé, comme Ulysse. Il est mobile, multiple. Il invente des tas d'astuces pour rouler ses adversaires ou se tirer d'un mauvais pas. Le hérisson ne connaît qu'une seule ruse, toujours la même. Se mettre en boule en présentant ses piquants. C'est peu, limité, mais ça marche. Le hérisson s'en sort toujours avec une grande économie de moyens. Le couillon obtus et répétitif n'est donc peut-être pas si bête. Ulysse, lui, est un renard. Il trompe son monde, joue au mendiant, fait rire ceux qu'il veut détruire. Il ne connaît pas de limite, pas dans la bêtise, mais dans l'intelligence et la dérision. Le rire est l'une de ses armes. Il fait rire les prétendants en faisant le mendiant, en se battant avec le pauvre Hiros. Mais il rira bien, qui rira le dernier. Pénélope non plus n'est pas en manque de rire et de comique. Elle est partie d'un grand éclat de rire quand elle a entendu son fils Télémaque éternuer, au moment où elle disait qu'elle attendait un sauveur, qui la délivrerait des prétendants. Un peu plus tard, elle aura un rire plus discret, mais terriblement efficace, après la scène burlesque des mendiants. Les deux époux, chacun de son côté, jouent la comédie, chacun à sa manière. Ulysse face à Hiros a fait dans le brutal le grotesque. Elle, ce sera dans le noble et le sublime. Elle va jouer de sa beauté de manière à couper le souffle des prétendants et à les provoquer, en se moquant d'eux. C'est la déesse Athéna qui lui donne l'idée. Son but est que les prétendants qui attendent depuis 3 ans les faveurs de Pénélope n'en puisse plus de désir, et qu'Ulysse et Télémaque l'admirent davantage.
C'est alors qu'Athéna, la déesse aux yeux de lumière, mit dans la poitrine de Pénélope, la très sage fille d'Icaros, l'idée de se montrer aux prétendants. Athéna voulait que se déploie l'ardeur des prétendants, et que Pénélope ait encore plus de prix qu'auparavant aux yeux de son mari et de son fils.
Pénélope accepte l'idée comme si c'était la sienne. Cette idée la fait rire. Homère emploie alors une expression très bizarre.
Pénélope rit d'un rire gratuit, pour rien.
Le rire de Pénélope est libre, un rire pour rire. La reine se laisse emporter par une bouffée de joie, à l'idée qu'elle va jouer un bon tour aux prétendants qu'elle déteste, à l'idée qu'elle va les manipuler. Elle prend une décision totalement inattendue, totalement libre, et le dit à sa servante.
Eurynomée, mon cœur désire ce qu'il ne désirait pas auparavant, me montrer aux prétendants que pourtant je hais.
Et pour cela, il faut préparer Pénélope, qui doit faire grande impression. Athéna s'en charge. Elle l'endort comme elle sait le faire et la rend magnifique.
Athéna, aux yeux étincelants, eut alors une idée. Sur la fille d'Icaros, elle versa un doux sommeil. La tête renversée, le corps souple, elle s'endormit sur le lit de repos où elle était, et la déesse l'orna de tous les dons les plus aimables du ciel. Elle purifia d'abord son beau visage, de la même ambroisie, dont Aphrodite au beau diadème use pour se mêler au cœur désirable des grâces. Elle la fit paraître à la fois plus grande et plus forte. Elle la fit plus blanche encore que l'ivoire scié. Là-dessus, la déesse merveilleuse s'en alla.
Pénélope se réveille, surprise d'avoir été envahie par une douce torpeur, alors que ce qu'elle vit depuis des années est une torture permanente. Elle se lève et se montre au prétendant, accompagnée de 2 servantes. L'apparition est stupéfiante. Les prétendants sont estomaqués, fascinés par une telle beauté, vaincus. Ils pataugent dans leur désir.
Sur ces mots, elle descendit de l'étage brillant, non point seule, car 2 suivantes l'escortaient. Et quand la noble femme fut devant les prétendants, elle resta debout dans l'entrée de la forte salle en ramenant ses voiles brillants sur ses joues. Ses fidèles suivantes se tenaient à côté d'elle. Eux, leurs genoux se dérobèrent. L'amour ravit leur cœur. Tous brûlaient d'être dans son lit, couchés près d'elle.
La reine, que les dieux te protègent. Ta beauté nous inonde de lumière. Ainsi que le soleil, elle brille de 1000 feux, Pénélope.
Pénélope se lance alors dans des grands discours. D'abord, elle m'origène son fils, qui a laissé les prétendants maltraiter un mendiant. Elle parle d'Ulysse, mais sans le savoir. Puis, elle annonce aux prétendants que pour elle, l'heure du choix a sonné. Elle doit se décider et choisir qui elle va épouser, même si elle en est plus que triste. Ulysse lui avait bien dit qu'elle devrait se remarier s'il n'était pas revenu quand leur fils Télémaque aurait de la barbe. C'est le cas. Elle annonce aux prétendants que l'un d'entre eux sera vite l'heureux élu. Elle le fait en des termes plus que sinistres.
Ainsi me parla Ulysse, et voici que tout s'accomplit. La nuit est proche où se consumeront d'odieuses noces pour moi, pour la maudite dessaisie de son bonheur.
Ce mariage est son malheur. Mais pour qu'il ait lieu, encore faudrait-il au moins que les prétendants se comportent comme de véritables soupirants, qu'il montre qu'il la désire vraiment, en la comblant de cadeaux. C'est ce qui se fait d'habitude. Or, les prétendants font l'inverse. Ils sont chez elle et dévorent les biens de celle qu'ils prétendent aimer.
Mais un chagrin terrible atteint mon cœur et mes entrailles. Les prétendants avaient auparavant d'autres façons. Ceux qui veulent briguer une femme de bien, la fille d'un homme riche, et rivalisent pour l'avoir, doivent eux-mêmes amener les bœufs, les brebis grasses, pour traiter ses parents et lui offrir des dons splendides. Mais ils ne mangent pas impunément le bien d'autrui.
Ulysse, toujours sous l'apparence d'un mendiant, est ravi d'entendre ce discours.
Ainsi, dit-elle, Ulysse l'endurant se réjouit de l'entendre solliciter ses dons, ayant tout autre chose en tête.
Les prétendants aussi sont ravis. Ils pensent que leur souhait va être exaucé. Ils sont d'accord pour apporter une masse de cadeaux. Mais ils mettent une condition. Ils ne quitteront pas le palais avant que Pénélope n'ait choisi l'un d'entre eux. Ils ne vont pas aller chercher eux-mêmes ces cadeaux. Mais ils envoient des serviteurs chez eux avec ordre de les rapporter. Ces cadeaux sont magnifiques.
D'Antinoos, on apporta un beau grand voile brodé. Il ne comptait pas moins de 12 agrafes en or, qui s'adaptaient à des crochets de belles courbes. De Rimac, bientôt, on apporta un collier ouvragé en or, paré de boules d'ambre, un vrai soleil. Deux serviteurs d'Eurydamas apportèrent des pendants d'oreilles, à trois perles grosses comme mûres, où la grâce brillait. De la part du seigneur Pisandre, fils de Polyctor, un serviteur apporta un carcan, bijou très beau. Chacun des Achéens apportait une autre merveille.
Pénélope, déjà rendue sublime par Athéna, a les mêmes bijoux que portait dans l'Iliade la déesse Héra quand elle voulait séduire Zeus et faire l'amour avec lui. Mais ce n'était pas une séduction pour l'amour. Elle voulait tromper Zeus et le faire tomber dans le sommeil après leur union. Pénélope n'est pas moins rusée. Pénélope rentre dans sa chambre. Ses servantes y apportent les cadeaux. Les prétendants retournent faire la fête avec chant et danse jusqu'au soir. Les prétendants sont encore plus excités et impatients qu'avant. Ils ont fait leur office de prétendant sans compter, mais en refusant de faire leur cours depuis chez eux, ce qui serait normal, ils se sont mis à la merci de Pénélope et de tout ce qui peut leur arriver. Ils ne sont plus maîtres de rien. Ils ne le savent pas, mais le rire, la fête, les cadeaux sont pour eux de très mauvais augure.
France Inter, quand les dieux rôdaient sur la terre, Pierre Judet de Lacombe.
Retrouverez toutes les références bibliographiques de cet épisode sur le site de France Inter. Cette émission a été réalisée par Xavier Pestugia. Les archives sonores ont été choisies par Claire Tesser. Les textes ont été lus par Yaël El-Haddad et Laurent Stocker, avec la voix d'Andrea Lechêne. La programmation musicale est de Thierry Dupin. La prise de son a été assurée par Laurent Baudouin. Le mixage par Mathieu Leroux. Bonne journée sur France Inter. Après le journal, nous retrouvons Thomas Snegaroff pour le grand face-à-face. Bonjour Thomas, quel est votre invité aujourd'hui ?
Bonjour Pierre, à midi, une question, la vie a-t-elle une valeur ? Et une réponse à rebours de l'esprit du temps qui met tous les vivants au même niveau avec le philosophe Francis Wolff.